Bonjour, professeur Tardif.
Bonjour.
Un grand merci d'être avec nous ce matin. Je pense que vous devez être assez pris et que vous devez travailler fort. Comment allez-vous d'abord?
Ah, ça va très bien. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin.
Ah ben super. Alors, lancée le 23 mars dernier, l'étude Colcorona teste cette fameuse colchicine contre la COVID-19 qui porte sur 6000 patients. Vaste étude, vaste chantier. L'objectif, c'est de déterminer si un traitement à court terme avec ce médicament réduit le taux de décès de complications pulmonaires liées à la COVID-19. Où en sont les essais, Jean-Claude Tardif?
Les choses avancent bien, mais évidemment, recruter 6000 patients dans une courte période de temps, c'est pas simple. Alors, raison pour laquelle, pour rester à l'intérieur des échéanciers qu'on avait, nous avons étendu le recrutement au reste du Canada, à New York, en Californie, en Espagne, et dans les prochains jours, on annoncera là plusieurs autres régions des États-Unis et d'autres continents qui vont se joindre à nous pour terminer le recrutement dans les temps. Je tiens à souligner quand même que les Québécois ont bien participé, mais on a encore besoin d'un autre effort pour compléter le recrutement.
Alors, pour l'instant, vous en êtes à combien, en fait, de personnes recrutées?
Ben, on dit pas le chiffre exact parce qu'il y a des régions stratégiques. Je vais faire une annonce probablement la semaine prochaine, mais on a besoin encore d'efforts et on croit bien que dans 4 à 5 semaines, on y sera.
Alors, je rappelle que pour faire partie de l'étude, il faut être diagnostiqué positif à la COVID-19, non hospitalisé, avoir 40 ans et plus. Pourquoi?
Ben, parce que pour démontrer l'effet d'un médicament, le bénéfice d'un médicament, il faut qu'il y ait malheureusement qu'il survienne des événements dans l'étude. Et on sait que si on prend strictement des patients jeunes, ben il arrive peu de choses, peu d'événements défavorables aux patients en bas de 40 ans. Donc, le risque de décéder et le risque d'avoir des complications comme être hospitalisé, avoir besoin de ventilation mécanique avec un respirateur, ces risques-là sont faibles. Alors, on s'est concentré sur la population qui est particulièrement à risque d'avoir des complications.
Oui, comme parmi les critères aussi, les gens infectés qui ont plus de 70 ans peuvent aussi participer à l'étude, hein, même sans facteur de risque.
Effectivement, parce que les gens au-dessus de 70 ans, malheureusement, sont beaucoup plus à risque d'avoir des complications graves de la COVID.
Et c'est interdit aux femmes enceintes ou qui allaitent ou qui n'utilisent pas de moyens de contraception.
Effectivement, oui, les femmes qui sont en âge de procréer et qui ne prendraient pas de contraception, on préfère pour cette étude-ci ne pas les inclure. Bien que dans une autre région de la planète, il y a une maladie qui s'appelle la fièvre méditerranéenne familiale, la FMF, où des gens prennent la colchicine à vie à partir d'un bas âge et les femmes ne cessent pas la colchicine pendant la grossesse dans cette maladie-là sans problème. Mais ici, on croyait qu'il était préférable dans cette étude-ci là, de ne pas impliquer des femmes qui sont enceintes ou qui seraient à risque de le devenir.
Pourquoi les enfants sont si peu touchés, Dr Tardif?
Ah, très bonne question. Ben, écoutez, c'est en fait la clé qui nous a menés sur la piste de faire l'étude Colcorona. Les enfants sont infectés essentiellement autant que les adultes, mais vous avez bien raison de noter qu'ils ont rarement des complications.
Il y a eu quelques cas, mais très peu.
Oui, mais c'est très peu. Et la plupart de ces enfants-là avaient des anomalies de base. Là, pour la plupart, c'est pas arrivé dans un ciel clair. Là, c'est-à-dire que la majorité de ces enfants-là avaient d'autres problèmes de santé. Maintenant, pourquoi les enfants, généralement, n'ont pas de complications? C'est qu'ils semblent être en mesure, au contraire des adultes, de mettre le frein, si vous voulez, rapidement sur la réponse inflammatoire. Et on connaît même certains des mécanismes qui font que les enfants rapidement sont capables de mettre le frein sur l'inflammation, au contraire des adultes. Et ça nous a d'ailleurs mis sur la piste que cette tempête d'inflammation était à l'origine des complications, un peu comme on l'a vu en passant dans l'épidémie de grippe espagnole de 1918, où les enfants étaient infectés, mais n'avaient à peu près jamais de complications.
Alors, nous avons une question des auditeurs, professeur Tardif. C'est quoi la colchicine, en fait?
Alors, la colchicine, c'est un médicament anti-inflammatoire puissant, très vieux. En fait, il y a 2000 ans, les gens utilisaient, n'avaient pas isolé la colchicine, mais avaient réalisé que s'ils mangeaient la feuille d'un crocus, là, qu'on appelle la colchique d'automne, parce qu'elle fleurit en automne, ces gens-là, c'était très astucieux, s'étaient rendu compte que les gens qui avaient, à ce moment-là, on savait pas que ça s'appelait la goutte, mais quand les gens avaient un gros orteil rouge, chaud, extrêmement douloureux, c'est ce qu'on maintenant on appelle une crise de goutte, ils s'étaient rendu compte que quand ils se mettaient à manger la fleur de la colchique d'automne, l'inflammation disparaissait. Et donc ça, c'est connu depuis 2000 ans. Et au 19e siècle, il y a d'autres gens qui ont isolé le principe actif dans la colchique d'automne, cette fleur. Et donc, comme ça venait de la colchique, ils l'ont appelée la colchicine. Et on le prescrit maintenant pour dans plusieurs maladies, c'est-à-dire c'est le traitement de base pour une crise de goutte. Et ça traite, en passant, une autre maladie due à un autre virus qui s'appelle la péricardite virale, où la première ligne de traitement, c'est la colchicine. Et bien important, ça n'a rien à voir avec un autre médicament dont les gens ont parlé il y a quelques semaines, qui était la chloroquine. Là, on parle bien qu'on teste la colchicine.
Justement, vous parlez de chloroquine, je vous tends une perche. En fait, vous pensez quoi, en fait, des autres courses aux remèdes, en fait, qui impliquent d'autres molécules comme la chloroquine ou l'hydroxychloroquine qu'on a vu en France, qu'on voit aux États-Unis? Que pensez, oui, bon, en fait, de ces autres études?
Oui, ben, écoutez, premièrement, je pense qu'il n'y a rien de mal. Je prétends pas qu'on a toute la vérité. Je suis très confiant dans notre hypothèse, puis je pourrais ajouter d'autres éléments qui sont ajoutés qui suggère effectivement qu'on a des bonnes chances d'avoir raison. Ceci étant dit, je pense que plus il y a de cerveaux qui tentent de solutionner un problème et qui tentent différentes avenues, ben il y en a une qui va finir par fonctionner. Maintenant, respectueusement, et je sais qu'il y a bien des gens intelligents qui ont testé avec passion la chloroquine et l'hydroxychloroquine, moi, je mettrais, j'ai mis dès le début, vous vous souviendrez probablement il y a 5 semaines, un mot important de prudence face à la chloroquine et l'hydroxychloroquine. Respectueusement, je ne croyais pas que les données étaient très fortes pour espérer un bénéfice de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine. D'ailleurs, les 3 dernières études qui viennent d'être présentées sur le sujet ont été très décevantes pour la chloroquine et l'hydroxychloroquine. Et en plus, il y avait certains risques. Et maintenant, l'Agence européenne, le FDA aux États-Unis, Santé Canada, ont émis d'importantes notices disant de prudence que ces médicaments-là pouvaient causer des problèmes cardiaques importants. Alors, à mon avis, il faut être extrêmement prudent et la chloroquine et l'hydroxychloroquine, à mon avis, ne devraient pas être prescrits en dehors de protocoles de recherche.
Alors vous avez réagi rapidement. En quoi le coronavirus a-t-il transformé la vitesse des recherches, d'après vous?
Il a fallu forcément modifier les façons de faire. Et s'il y a peut-être une ou deux bonnes nouvelles à travers cette période extrêmement pénible pour toute la planète, il y a eu de l'innovation qui a dû survenir. Je vous dirais, par exemple, moi, ça fait 25 ans que je fais de la recherche et habituellement, normalement, quand on veut inclure des patients dans une étude, la façon traditionnelle, c'est demander au patient de se présenter à l'hôpital ou à la clinique, de le questionner, et de faire signer un formulaire de consentement sur une feuille de papier. Et ça, c'est la façon des 25 dernières années. Et là, maintenant, parce qu'on ne voulait pas exposer nos travailleurs de la santé à des risques d'infection, à côtoyer continuellement des porteurs de COVID, eh bien, on a transformé en une semaine complètement, radicalement, la façon de faire la recherche, c'est-à-dire que le patient qui nous appelle pour participer appelle à un numéro de téléphone qui est disponible 24 heures sur 24. Tout se fait ensuite par voie téléphonique et électronique, c'est-à-dire une infirmière va parler immédiatement au patient, 24 heures sur 24, va lui expliquer l'étude, va même lui envoyer le formulaire de consentement éclairé sur son téléphone portable ou sur son ordinateur à son choix. Et le patient, à l'aide de son téléphone, va pouvoir cliquer et signer électroniquement, donc nous fournir son consentement et nous livrons le médicament à la maison du patient en dedans de 4 heures. Et ensuite, pendant toute la durée de l'étude de 30 jours, le patient n'a pas besoin de se présenter à l'hôpital pour réduire les risques de contamination, de contagion. Et donc, nous suivons le patient par téléphone ou par autre moyen électronique. Et enfin, on se rend compte, la grande nouvelle, c'est qu'on est probablement même plus proche des patients qu'on l'était avant, bien qu'on n'ait pas physiquement avec eux, parce que dès qu'ils ont un problème, une inquiétude, un événement qui survient, ben, ils peuvent nous appeler au même numéro 24 heures sur 24, exactement. Donc, ça se passe très bien.